Bonjour à tous. C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Vous allez entendre 5 reportages réalisés par les reporters des radios francophones publiques, Radio-Canada, la RTBF, la radio-télévision suisse, Radio France et RFI, qui a rejoint le club cette année. Chacune de ces radios a sélectionné un reportage pour la représenter et concourir au prix du journalisme des médias francophones publics. Certains de ces sujets ont été initialement diffusés dans des versions plus longues, que vous pouvez retrouver sur le site de France Inter, franceinter.fr. Ces 5 reportages seront départagés par un jury d'auditeurs représentatifs, 20 par radio, et le résultat sera proclamé dans notre journal de 19h. L'ordre de diffusion a été tiré au sort, et vous allez donc entendre successivement 12 jours dans la vie d'un réfugié par Omar Waman pour Radio France, l'AVC comme un tsunami dans ma tête par Michel Labrec pour Radio-Canada, Rêve d'Europe à Lesbos, par Anastasia Becchio pour RFI. Exil, la route des migrants vécus de l'intérieur, par Nicolae Chiot pour la radio-télévision suisse. Et Pour le meilleur et pour le pire, par Charlotte Legrand et Julien Bader pour la RTBF. Place donc d'abord à Omar Waman, l'envoyé spécial permanent de Radio France à Beyrouth. Pendant 12 jours et 12 nuits, à l'automne 2015, Omar Waman a accompagné des réfugiés syriens en se faisant passer pour un des leurs, allant jusqu'à traverser la mer Égée sur une embarcation de fortune.
Le rendez-vous est donné dans le nord de la ville, sur une place adossée au mur d'une école. La nuit vient de tomber et les réfugiés affluent par grappes. Ils sont facilement reconnaissables avec leurs sacs poubelles noires qui contiennent les gilets de sauvetage. Très vite, une fourgonnette blanche s'arrête sur la place. L'un des passeurs demande à notre groupe de monter immédiatement à l'intérieur. Nous sommes 50, dont 17 enfants, tous des réfugiés syriens. Nous sommes entassés à l'arrière, il fait chaud et nous avons du mal à respirer. Après une heure de route, nous arrivons à destination. Nous sommes sur une plage à l'ouest d'Izmir, où nous attendent un bateau pneumatique et 4 passeurs turcs. On est arrivé et là on nous a demandé de courir. La mer s'offre à nous, la lune est presque complète. Les passeurs sont menaçants. Ils demandent aux réfugiés de mettre leur gilet de sauvetage et de monter immédiatement à bord du bateau pneumatique prévu pour une dizaine de personnes. Les migrants ne comprennent pas. Ils devaient voyager de jour, ils vont traverser la mer Égée en pleine nuit. Certains prient, d'autres se tiennent la main. L'un des passeurs est en maillot de bain. C'est lui qui a démarré le bateau. Soudain, il plonge dans l'eau et regagne la rive à la nage. Désormais, nous sommes seuls. Et celui qui est chargé de nous conduire à Chios est un réfugié. Il n'a aucune notion de navigation. Nous partons dans la mauvaise direction. C'est mon GPS qui, finalement, nous donnera le bon cap.
Il va trop vite. Il faut garder ce cap. Il faut garder ce cap.
Non, 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 Yasser, non, Yasser, non. This is Chios here.
C'est bon, c'est la bonne direction. C'est la bonne direction. It's good. Tamam, tamam. Adi, Turquie.
À droite, à droite. Al-Yamin, Al-Yamin. Al-Yamin.
Al-Yamin, 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 Al-Yamin. Al-Yasser, Al-Yasser.
3h du matin. Heureusement, il y a une lune, pas totale, mais presque, qui nous permet d'être éclairé. Le ciel est étoilé. Ça bouge beaucoup. Il y a des vagues, il y a des grosses vagues. Je suis vraiment près de l'eau. Il y a la maman de Lotus qui voulait me passer la petite, mais elle doit être mal installée. On devait partir de jour, on part de nuit. Mais on tient le cap là, on tient le cap, on voit des lueurs, des lumières, Chios scintille au loin. Mais la lune a disparu, elle est derrière des nuages, on ne la voit plus. Du coup, mais il fait noir. Heureusement que une partie du ciel est étoilée. On va quitter les eaux turques, d'après ce que nous dit le capitaine, qui n'a pas été beaucoup formé. En tout cas, la première question qu'il nous a posée, c'est où est Chios ? Il ne savait pas où se trouvait Chios. Du coup, on a eu un démarrage compliqué. Mais là, depuis, on avance. Al-Yamin, c'est à droite. Al-Yassar, c'est à gauche. C'est détroit. Les réfugiés espèrent entrer dans les eaux grecques pour ne pas être rapatriés par les gardes-côtes turcs. C'est le port là-bas. Il ne faut pas bouger, Matharak. On ne voit rien. On ne sait pas si c'est une plage ou si ce sont des rochers. Si ce sont des rochers, on peut aller s'écraser dessus et on va tous être dans l'eau. Ce serait très dommage parce qu'on arrive. Et là, on longe Chios, on voit les habitations. On voit très bien. Les habitations, là il fait.
We can land there, you see it?
Ok.
Okay.
On nous propose d'aller là-bas, mais il y a des pierres.
Nahsem, Mohamed Nahsem. Allez, sœur.
On s'est pris les rochers.
لا حدا يتحرك
يلا يا جماعة
يلا شوي وصلنا شوي
يا جماعة واحد
نعيبة نضرب واحد شيء
واحد يلا صلوا
محمد خايف فوق اللي ضافون
عطير اللي وراك
c'est un peu la cohue là. On arrive à Chios.
Ok.
Amel,
content, Maya.
Salut à Mohamed.
Est-ce que c'est la Grèce?
Happy?
Ah, je suis content. Je suis content, j'ai envie de pleurer.
Les gens se débarrassent de leur gilet de sauvetage. On n'a plus besoin. En fait, on s'est pris les rochers en arrivant.
Nous l'avons fait. Nous voilà en Europe. Nous sommes en Europe. C'est fait, mais c'était si dur.
Comment vous avez tenu le coup? C'était long, hein? Ça a duré près de 2 heures.
En fait, je pensais qu'à mes enfants. Lotus et mon fils.
Ouf.
Je remercie Dieu parce que quand le bateau a tapé les rochers, j'ai vraiment eu peur.
Mais c'était. On était arrivé.
Ce reportage, 12 jours dans la peau d'un réfugié, a été diffusé pour la première fois dans le magazine Interception le 18 octobre 2015. Et rediffusé le 24 juillet 2016. Voici maintenant le reportage de Radio-Canada. Michel Labrec, qui est journaliste depuis plus de 30 ans, il a travaillé autant au Canada anglophone que francophone, il a été correspondant en Amérique du Sud, il a parcouru une bonne partie du monde comme envoyé spécial. Cette année 2016 a d'ailleurs été, pour lui, à forte saveur américaine. Mais son année 2015 a été d'une toute autre nature. Le 11 janvier, Michel Labrec était dévasté par un AVC, un accident vasculaire cérébral. C'était une surprise puisqu'il n'avait aucune des pathologies identifiées comme pouvant mener à l'AVC. De retour au travail, après 6 mois de convalescence, il a décidé de faire un reportage autour de cette expérience éprouvante qu'il a traversée, mais dont il est sorti finalement avec peu de séquelles. Il voulait rendre hommage à l'équipe médicale qui l'a soigné avec succès, à sa famille qui était avec lui quand l'AVC s'est produit, et sensibiliser le public aux réalités de cette terrible maladie.
C'était un dimanche après-midi. Retour en famille de Québec vers Montréal. Je me sentais bien. Il y avait bien eu des maux de tête assez fréquents, mais plutôt légers, depuis 3 ou 4 jours. Et aux 3/4 du trajet, une douleur intense à l'oreille gauche. Assez pour que je décide de céder le volant à ma conjointe. La suite, c'est ma chérie et mon fiston qui peuvent raconter.
Là, en fait, tu disais des phrases qui faisaient pas tant de sens. Il manquait des sujets, des verbes, des compléments. Des fois, c'était assez flou.
En regardant mon angle mort, j'ai vu la face de François qui a commencé à avoir l'air paniqué. Et là, tout de suite, j'ai dit « Oh, il y a quelque chose qui va pas ». Je t'ai demandé de sourire et ça marchait pas. Pourquoi je t'ai demandé de sourire? Parce que tu étais affaissé, puis il y a une façon de reconnaître les AVC qui est très simple. En français, on dit vite. En anglais, on dit fast. Vite pour visage, incapacité, trouble de la parole, puis E pour extrême urgence. L'incapacité, c'est l'incapacité à lever les bras.
J'entre dans un long tunnel. Je ne reprendrai conscience qu'épisodiquement. Je ne sais pas vraiment qu'une bombe à retardement a explosé dans mon corps.
Vous avez reçu le tonnerre, la foudre sur la tête. C'est un déficit neurologique focal d'installation foudroyante.
La définition du neurologue vasculaire, Sylvain Lantier, du CHUM. C'est lui qui m'a soigné.
Au premier hôpital, vous étiez arrêté. Vous aviez eu la thrombolyse intraveineuse avec le RTPA. C'est un médicament qui se donne dans les veines qui sert à dissoudre les caillots. Maintenant, ça ne fonctionne pas toujours. Puis parfois, il faut aller chercher le caillot, passer un cathéter. Les angio-interventionnistes sont montés dans les vaisseaux sanguins jusque dans le cerveau pour aller retirer le caillot qui bloquait l'artère dans le cerveau. On appelle ça une thrombectomie.
Attention, préposé pour le cyste.
OK,
comment ça va ce matin?
Votre carotide gauche, vous voyez, à un moment, est plus grosse qu'elle ne devrait être. Ça, c'est la séquelle qui vous reste de votre dissection. C'est l'explication, en fait, de ce qui vous est arrivé. C'est qu'il y a eu une plaie, finalement, dans l'artère du cou à la base du crâne. Et puis, il y a un caillot qui s'est formé. Ce caillot a migré plus haut.
Le docteur Alain Veil analyse l'imagerie médicale de mon cerveau. Une image qui me donne quelques picotements à la tête encore aujourd'hui. Le docteur Veil, c'est le neuroradio-interventionniste qui s'est rendu dans les tréfonds de mon cerveau pour enlever le caillot.
Oui, c'est un petit peu de la haute voltige, mais c'est du travail, de l'entraînement. C'est un peu de la plomberie, hein, je veux dire, un plombier qui va déboucher un évier avec une tringle, etc. C'est un petit peu pareil, hein, quand on y pense. Hein.
Peut-être le matériau est un peu plus fragile.
Le matériel est un peu plus fragile, les conséquences sont quand même pas les mêmes.
Le docteur Veil, le docteur Lantier et toute une équipe font le maximum pour me sauver.
Chaque minute compte. À chaque minute, on perd 1,9 million de neurones.
Ouf! Docteur Lantier, vous me donnez le tournis. Heureusement qu'il y a 100 milliards de neurones dans mon cerveau. Le docteur Alain Veil.
Parce qu'on a pu réouvrir l'artère du cerveau, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et puis enfin, parce que vous devez être de bonne nature d'avoir bien récupéré tout le monde, même qu'on arrive à avoir dans les conditions comme vous, idéales, assez tôt, ne vont pas récupérer. Parce que ça fait extrêmement plaisir, vous imaginez, de voir quelqu'un qu'on voit paralysé et puis qui ne parlait pas au moment où il arrive, et puis plus tard de se faire interviewer, ça fait chaud au cœur.
J'aurais dû commencer mon entrevue en vous disant merci, Dr. Veil.
« C'est dans les jours suivants que j'émerge, lentement, très lentement, au départ. Ma blonde s'en rappelle d'ailleurs mieux que moi.
On appelle ça hémiplégique dans le jargon. Ça veut dire qu'il y a une moitié du corps qui ne répond pas. Franchement, il fallait avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de foi pour penser que tu pouvais avoir l'air de ce dont tu as l'air aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions au départ. Ce qu'il faut dire, c'est que ça récupère assez vite par la suite.
Et en quelques jours, la parole, la mémoire et la capacité de marcher reviennent. Tout à coup, il me semble que le pire est évité. C'est le début d'un périple intérieur qui sera parfois tumultueux. Après 5 semaines, retour à la maison. Le moral est plutôt bon. Et tout à coup, un mois plus tard, une nouvelle alarme. Des maux de tête qui ressemblent à ceux que j'avais eus juste avant mon AVC reviennent, persistants. C'est là qu'on ressent tout à coup la fragilité dans laquelle on est. Retour à l'urgence de l'hôpital, fausse alerte. La peur d'une récidive, d'un deuxième AVC s'installe et s'ensuit une spirale d'anxiété. Mais j'ai vite compris que je n'étais pas une exception.
Il y a un impact psychologique épouvantable. Un AVC, c'est une agression. C'est comme si quelqu'un nous sautait dessus puis nous blessait, nous agressait. Donc, après ça, on ne vit pas normalement.
Le neurologue vasculaire, Sylvain Lantier.
Même quand physiquement, il n'y a pas de séquelles, on reste avec des séquelles psychologiques. Donc, on se dit toujours, bon, qu'est-ce qui m'attend demain matin? Ou est-ce que je vais être encore vivant ce soir? Ou est-ce que je vais être capable de bouger ce soir? Donc, on reste anxieux. Il y a de l'anxiété.
Il y aura beaucoup de travail sur moi. Mes proches m'ont aidé pour sortir de cette glaciation psychologique. Et pourtant, au bout du compte, je suis un des chanceux. C'est peut-être pour cela que j'ai eu si peur que les séquelles auxquelles j'ai échappé ne reviennent. Mais je n'ai rien d'un héros. Les vrais héros, ce sont ceux qui ont des séquelles importantes et qui doivent les vaincre. Guylaine Trudeau, l'orthophoniste qui m'a suivi pendant 6 mois, en a côtoyé beaucoup.
J'ai vu beaucoup de gens s'adapter à leur situation, mais l'accepter, il y en a peut-être. Mais pour moi, personnellement, je trouve que c'est un processus qui est pas mal plus difficile. Dans ma pratique, il m'a été donné de voir des cas absolument exceptionnels de gens qui avaient des grosses, grosses lésions et qui ont développé des côtés d'eux-mêmes que je pense qu'ils n'auraient jamais pu développer si ça ne leur était pas arrivé.
Nous voilà entre le printemps et l'été. Et en même temps que la renaissance de la nature, je vis ma propre renaissance. Voilà que je mords de nouveau dans la vie. C'est comme si je goûtais différemment les mangues, les tomates, le vin. Tout est si bon. Et le bleu du ciel, qu'est-ce que c'est formidable! Et le vent dans mon visage. La normalité se réinstalle. Et début juin, je retourne progressivement au travail. Mes habiletés d'écriture et de montage sont restées intactes. Ouf!
L'AVC, comme un tsunami dans ma tête, a été diffusé le 24 novembre 2015 sur Ici Radio-Canada Première. Le reportage de RFI nous emmène en Grèce. Février 2016, alors que l'Union européenne est en train de négocier un accord avec la Turquie, l'exode des réfugiés syriens, irakiens, afghans vers l'Europe se poursuit. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants continuent d'accoster quotidiennement sur les îles grecques de la mer Égée, proche de la Turquie. Une traversée périlleuse dans laquelle plus de 300 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de l'année. Une majorité des réfugiés arrivent sur l'île de Lesbos, où après s'être enregistrés au centre d'accueil géré par Frontex et la police grecque, ils gagnent Athènes pour tenter de poursuivre leur route vers l'ouest ou le nord de l'Europe. Après quelques jours de mer très agitée, les arrivées de migrants à Lesbos avaient connu une accalmie avant de reprendre, à un rythme soutenu, une fois le beau temps revenu. C'est à ce moment-là qu'Anastasia Becchio a tourné ce reportage.
Le jour commence à peine à se lever sur le petit port de Skalasi Kamineas, dans l'extrême nord de l'île de Lesbos. 3 hommes vêtus de combinaisons jaunes font les derniers réglages sur leurs grands zodiaques rouges avant de partir en mer à la recherche d'embarcations en difficulté.
Un bateau est déjà arrivé la nuit dernière. Je pense que la journée va être chargée.
Gérard Canals, sauveteur en mer professionnel venu de Barcelone, coordonne les activités de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms. Il est allé à la rescousse de centaines d'embarcations surchargées qui dérivaient entre les côtes turques et grecques. Mais ces 5 derniers jours, aucun bateau de réfugiés n'est arrivé sur les côtes nord de Lesbos. Café à la main, Nick, skipper allemand, s'apprête lui aussi à embarquer sur le Zodiac.
On pense que c'est la situation politique qui a stoppé les arrivées de bateaux pendant 2 ou 3 jours. Le ministre allemand était en Turquie. Et puis il y a aussi les conditions climatiques. Pendant 3 jours, il y a eu un vent venu du sud. Et dans ce cas, comme les migrants arrivent du nord sur des bateaux pneumatiques, ils ne peuvent pas naviguer. En tout, il y a eu 5 jours calmes. Mais aujourd'hui, il fait beau. Beaucoup de réfugiés sont sur les plages, donc on s'attend à du mouvement.
Le Zodiac s'éloigne sur une mer calme. Dans un coin du port, un pêcheur répare ses filets jaunes. À 10 mètres de là, des gilets de sauvetage, des vêtements et des morceaux de bateaux pneumatiques continuent de s'empiler sur la plage. Moins d'une heure plus tard, la patrouille est de retour dans le port.
Il y avait un bateau de réfugiés au large qui a été secouru par une équipe bulgare de Frontex. On reste ici, on est prêt. On a une radio, un téléphone. Si quelque chose se passe, on peut être sur zone en 5 minutes.
Jafar et son cousin Mohamed, 20 ans tous les deux, font partie des réfugiés pris en charge par un navire de Frontex dans les eaux grecques. Fuyant Bassora en Irak, ils ont dû patienter 15 jours en Turquie à cause du mauvais temps, puis payer chacun 3 000 $ pour embarquer sur un bateau pneumatique avec 43 autres personnes.
Ouais, c'était dur. La traversée a duré 3 heures. Et il y avait des vagues énormes. Il faisait nuit. On ne voyait rien. Les enfants, les femmes, tout le monde se sentait mal. Ils pleuraient. Ouais, c'était vraiment dur.
Voilà, sa femme Zara et leurs 2 enfants de 5 et 3 ans étaient dans le même bateau pneumatique il y a seulement quelques heures. Assis sur un muret à la sortie du centre d'enregistrement de Moria, près de Mytilène, la capitale de l'île, ils reprennent doucement leurs esprits.
Ça a pris 4 heures. Le danger, il vient surtout des Turcs. Ils manœuvrent pour nous empêcher de traverser. Ils nous ont repoussés plusieurs fois vers les côtes, mais nous, on voulait traverser.
Dans la poche de Wala, un papier avec l'identité et les photos de tous les membres de la famille qui leur permet de continuer leur route et des billets pour le ferry de 20 heures qui les amènera à Athènes. Ils tenteront ensuite de rejoindre l'Allemagne. Avant de repartir, la famille écoute les derniers conseils de volontaires.
Quand ils vous demandent à la frontière pourquoi vous avez quitté votre pays, dites toujours que c'est à cause de la guerre.
Guerre.
Oui, ne dites pas que c'est pour la famille. Dites toujours guerre. Sinon, ils vous refouleront, d'accord?
Et s'il vous plaît, prenez toujours soin des enfants. Toujours, hein?
Ok, merci de votre aide.
Rêve d'Europe à Lesbos a été diffusé sur RFI le 17 février 2016. Le sujet de l'immigration était assez naturellement l'un des plus traités cette année par les radios francophones publiques. Et c'est maintenant le reportage de la radio-télévision suisse que vous allez écouter. De Kilis, à la frontière syrienne, jusqu'à la jungle de Calais, dans le nord de la France, Nicolas Echiot a suivi, sur plus de 6600 km, le parcours de 6 jeunes Syriens de Raqqa, de la peur de traverser la mer Égée au doute de choisir la bonne destination. Ce reportage, entièrement réalisé avec un téléphone portable, retrace les moments marquants de ces semaines en immersion.
Nous n'étions que de simples civils, étudiants, qui suivaient, qui plus est, des études à l'université de Damas pour assurer notre avenir. Mais en Syrie, de nos jours, les gens instruits jouent désormais le rôle du maillon faible de la République.
Il s'appelle Jamal, il a 19 ans, étudiant en mathématiques à Damas, il n'a tenu qu'un an.
À Raqqa, Daesh nous accueillait en nous accusant de venir de la République des Mécréants. Il y avait des cadavres se faisant dévorer par des chiens. On a également vu des gens se faire décapiter devant nos yeux, dans les souks, dans les rues, des dépouilles éparpillées, des têtes accrochées. Nous avons pris la décision de quitter la Syrie pour l'Europe, car les pays voisins n'ont pas été en mesure de nous accueillir, comme le Liban ou la Turquie.
C'est en Turquie que nous faisons connaissance. Ils sont 6 et viennent tous de Raqqa. L'aîné du groupe s'appelle Youssef, 24 ans. Le plus jeune d'entre eux, K, n'a que 13 ans. Tous n'ont qu'un rêve, étudier. Mais dans la Syrie d'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment possible. Mahmoud, 20 ans.
J'ai été arrêté par le régime 3 fois. On me torturait avec des électrodes, on me frappait sur les pieds, et puis on me mettait la tête sous l'eau.
Tous ces jeunes vont en Occident, en Allemagne pour la plupart. Rester en Turquie, seuls les plus pauvres le font. Car là-bas, rien n'est facile quand on est syrien. Ce jeune homme vit depuis 2 ans à Izmir. Il n'a pas assez d'argent, 1000 euros, pour traverser.
Nous sommes exploités en Turquie. Par exemple, si on va acheter un sac de pain, dès qu'on est repéré comme syrien, le sac qu'on vend à un turc pour 1 lire, il sera 2 à 3 fois plus cher pour un syrien. J'ai travaillé pour les Turcs, pour 230 francs par mois. À la fin du mois, j'ai demandé ma paye à mon employeur. Il m'a dit, il n'y a pas d'argent pour toi ici, dégage.
Izmir est le quartier populaire de Bashmane. C'est ici que se font les contrats avec les passeurs qui ont pignon sur rue. Omar vient de Damas, il a tout vendu pour payer sa place. Quelques heures avant de partir, il se confie.
Our heart is dead.
Vous allez passer en Europe sur un bateau? C'est une vie nouvelle? J'espère finir mes études. Mais vous savez, avec notre départ de la Syrie, tous nos rêves se sont évanouis.
Tout ce qu'on veut, c'est une vie libre et correcte, en sécurité. Nous avons été obligés de partir de Syrie. En fait, nous ne sommes pas des touristes. On veut juste sauver nos vies.
Leur vie, ils vont pourtant la risquer à de nombreuses reprises, en commençant par la mer Égée.
Nous avons fait la traversée alors que la mer était déchaînée. Nous étions en danger. Ils nous ont promis un passage à 30 personnes. Nous étions 60 personnes. Et quelques minutes après, l'embarcation a pris l'eau.
Arrivé en Grèce, l'ambiance change. Les migrants se détendent un peu et dansent entre eux. Afghans, Irakiens, Syriens, tous se déhanchent et se réchauffent le temps d'un dabché. Une danse populaire qui nous accompagnera durant tout le périple. Cette scène est filmée par l'un des 6 jeunes migrants à l'aide de son portable. Sur la route des exils, on n'entend que ça. Le bruit d'un smartphone omniprésent. Outil indispensable pour les migrants, le téléphone est une véritable bouée de secours psychologique. Il leur permet non seulement de garder le contact avec leurs proches, mais également de garder un lien avec la réalité. Cette réalité, je vais également la capturer avec mon téléphone portable, que ce soit en filmant les interminables queues pour s'enregistrer ou pour manger, que ce soit pour prendre le bus ou le train. Train très souvent surbondé, où les conditions sont particulièrement difficiles. Please, food, water, s'il vous plaît, de la nourriture, de l'eau. Nous sommes en Hongrie, ces migrants sont entassés dans un train et les bénévoles sont obligés de leur lancer la nourriture par la fenêtre. Les autorités refusant tout contact entre migrants et population. En tout, ce sont 6000 km qui seront ainsi parcourus, de Kilis en Turquie à Nordhorn dans le nord de l'Allemagne, la plupart du temps dans la fatigue et le doute. Le doute d'y arriver, de pouvoir passer les frontières, mais aussi de choisir la bonne destination pour s'installer. Pour 4 des 6 jeunes migrants, ce sera donc ici, dans la salle de gym de cette petite ville du nord de l'Allemagne, Nordhorn, ville qu'ils ne connaissaient pas avant d'y être emmenés, qu'ils décideront de ne plus être des migrants, mais de devenir des réfugiés. Ici, 250 personnes dorment, le silence n'existe pas. Youssef, l'aîné du groupe.
I'm sad, very sad.
Je suis triste, très triste. Mon pays est fini, complètement fini. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Je suis venu ici pour compléter mes études et pour me sauver, pour sauver ma vie et pour faire mon futur. Mais je suis très triste d'avoir quitté mon pays et les miens.
Je quitte ces 4 jeunes sur un dernier dabché. K, 13 ans, est désormais en Suède. Il ne reste plus que Naïef, 20 ans. Bienvenue dans la jungle de Calais. Ici, c'est la boue. Ce sont des excréments, du plastique et des tentes partout. La jungle, c'est comme faire du camping dans une déchetterie. Et c'est là que vit Naïef, ce frêle et timide garçon qui souhaite faire médecine et qui essaye depuis samedi de passer le tunnel de la Manche. Pour l'instant, il n'a réussi qu'une seule chose, se fouler la cheville. Pourtant, Naïef est toujours aussi déterminé à y aller.
Je vais essayer, je ne vais pas y renoncer, je vais continuer à essayer.
Même si vous risquez votre vie, vous ne considérez pas la possibilité d'aller ailleurs, en France, au Danemark, en Allemagne?
Non.
Vous riez.
Mais absolument, que devrais-je faire d'autre? Pleurer? Mais non, mais ça sert à rien.
Pour tenter sa chance dans l'Eurotunnel, il faut attendre la nuit. Naïef m'invite à se reposer sous sa tente et à se livrer à quelques confidences. Je lui demande s'il a une petite amie.
Yeah.
Oui, en Grande-Bretagne. Et je pourrais mourir pour elle.
I want to die for her.
Ça, c'est la raison, je croyais que c'était pour aller faire médecine.
Oui, c'est pour médecine.
Mais c'est aussi pour une fille.
Arrête, je suis vraiment gêné.
Et oui, l'amour. Ce romantisme qui a déjà coûté cher à Naïef. Pour avoir possédé des chansons romantiques dans son téléphone portable, l'État islamique l'a battu et condamné à 10 jours de prison. Cette nuit-là, Naïef ne passera pas. La suivante non plus. La nuit dans la jungle, on entend le ronflement des génératrices, le sifflement des camions qui passent au loin, et surtout les gouttes d'eau qui explosent sur les tentes. Pourtant, Naïef rêve toujours d'évasion. Sur la plage de Calais, il regarde au loin.
The horizon, horizon, à l'horizon. I want to go swimming or by boat, by anything. I want to go to England.
Je vais essayer, même si je me suis cassé le pied, je suis prêt à tout me briser pour aller en Angleterre.
Ce reportage, Exil, la route des migrants vécus de l'intérieur, a été diffusé initialement le 24 octobre 2015 sur RTS La Première. On termine ce tour d'horizon en Belgique avec Charlotte Legrand et Julien Bader de la RTBF. Ils se sont intéressés à un tout nouveau tribunal belge qui traite, de façon nouvelle, tous les problèmes de séparation des couples. Le tribunal de la famille. Chaque famille a désormais un seul dossier et un seul juge pour tous les problèmes. Garde d'enfants, pension alimentaire, violence, test de paternité, une sorte de guichet unique pour les justiciables. Et ces tribunaux sont déjà surchargés. Un exemple au tribunal de la famille de Mons, les audiences se tiennent à huis clos, mais exceptionnellement, Charlotte Legrand et Julien Bader ont pu y assister. Ce reportage a été diffusé initialement le 30 janvier 2016 sur la RTBF.
La salle des pas perdus grouille de monde, plus une place pour s'asseoir, certains patientent debout, d'autres par terre. Toutes ces personnes ont été convoquées à l'audience du tribunal de la famille.
Je suis là pour la garde partagée en fait et la pension alimentaire.
La nature du problème, c'est que bon, j'ai un mari qui se croit, c'est le chef, il a tous les droits. Monsieur part en vacances et ici il a trouvé, une maîtresse. Ils nous ont enlevé tous les moyens parce que, bon, étant donné que c'était lui le chef, il m'avait fait une procuration, je me suis retrouvée sans un franc, il a enlevé carrément la procuration. En plus, il est alcoolique avec des médicaments, donc quand il est dans ses délires, c'est un enfer, on vit vraiment un enfer chez soi, quoi.
Je m'appelle Élie Catherine et alors je suis huissier d'audience, 3 audiences par semaine de 2h30. Si on dépasse ces 2h30, nous ne sommes pas payés. Bonjour Madame la Présidente.
Oui, bonjour. Donc ce matin, là, je vais entamer l'audience. C'est une très grosse audience, 50 dossiers qui sont fixés. Ce qui vous laisse, donne une petite idée du nombre de personnes qui vont défiler ici.
La salle est petite. C'était une demande de la présidente du tribunal de la famille, Valérie Moreau. Et les audiences ne sont pas publiques. Les justiciables entreront au compte-gouttes et repartiront tout juste après.
Le tribunal, s'il vous plaît, levez-vous.
Alors on peut y aller, dites-moi.
Les parties sont ici aujourd'hui pour faire l'aveu de la désunion irrémédiable. Les parties s'étaient mariées le 15 janvier 2015 à La Louvière, c'est donc récent.
Ok, et alors au niveau des mesures urgentes?
Il n'y a pas d'enfant.
Il n'y a pas de demande de secours alimentaire ou de pension alimentaire après divorce?
En tout cas pas en termes de citation.
Eh bien, l'affaire est prise en délibéré. Le jugement sera prononcé le 5 février.
Le mariage aura tenu un an à peine et les avocats ne s'en étonnent même plus. Régine Wauquiez traite les affaires familiales depuis 36 ans.
Je pense que les gens ne réfléchissent plus beaucoup et entament des procédures très rapidement sans dire tiens, on va faire un effort, on va essayer de continuer à vivre ensemble. Donc c'est un peu du shopping comme ça, on va vite, on divorce et puis et là-dedans ce sont les enfants qui en pâtissent.
Comptez 5 à 10 minutes d'audience pour un divorce sans complications. Mais si le couple a des enfants, souvent les choses se corsent, les débats s'enveniment, comme ici pour un problème de garde partagée.
Je pense que monsieur, il est indépendant, madame est infirmière.
Oui.
Alors, je vais dire, monsieur se fie toujours que madame peut s'arranger, parce que lui ne sait pas s'arranger. Monsieur voudrait de l'hébergement alterné, mais comment faire un hébergement alterné avec des horaires qu'il communique quelquefois à madame et qu'il ne respecte pas. Donc les enfants, ce n'est pas des paquets qu'on déplace au gré des humeurs de l'un et de l'autre. Il s'est engagé à prendre les enfants, il les prend. Madame me dit, pendant les congés de Toussaint, il s'est engagé à prendre les enfants. C'est comme madame qui a dû s'arranger. Ça s'est encore passé pendant les vacances de Noël.
Qu'est-ce que vous faites comme travail, monsieur ?
Chauffeur de taxi.
Vous êtes chauffeur de taxi, d'accord.
C'est ce qu'il dit, c'est faux.
Non, attendez, peu m'importe ce que madame dit, oui. D'accord ? Voilà. Mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, si vous êtes chauffeur de taxi et que vos horaires sont très variables, vous allez faire comment si vous demandez un hébergement une semaine sur deux ? Vous allez faire comment ?
Jusqu'à présent, j'ai pris une semaine sur deux et j'ai respecté. Depuis qu'elle est partie de chez moi, je prends les enfants une semaine sur deux.
Vous confirmez, madame ?
Non.
Déjà, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Bon, écoutez, alors, il y a une première chose que je viens de constater, c'est qu'effectivement, est âgé de 14 ans la semaine prochaine. Donc déjà, je pourrais peut-être l'entendre par rapport à ce qu'il souhaite.
En bas, la salle des pas perdus désemplit peu à peu. Le tribunal s'apprête à examiner sa 32e affaire. Mais l'huissier d'audience annonce qu'il s'en va.
Oh non ! Si, si, la fille est boutique. Si. Allez-vous plein de ministres de la justice, il n'a qu'à donner plus d'heures pour les huissiers audienciers. Il a déjà fait une demi-heure de plus. Vous êtes là pour plaider. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai 50 dossiers ce matin. Quelle est votre demande, madame ?
C'est 100 euros par enfant. Mais monsieur, réfléchit.
En fait, nous avons des prêts en commun. Et tant que ça n'est pas réglé devant le notaire, je ne sais pas ce que je sais faire.
Oui, mais la seule chose, monsieur, c'est que les enfants doivent manger. Ce serait bien de payer au moins un minimum.
Oui, c'est combien le minimum ?
Mais c'est vous qui me dites combien vous pouvez payer. Combien estimez-vous pouvoir payer aujourd'hui juste pour les enfants ? Je ne parle pas de madame.
Pas grand chose. Hein.
Ben, dites-moi ce que c'est pas grand chose.
Ben, disons une trentaine d'euros par enfant.
Ben, on peut prévoir 100 euros pour les trois enfants.
Dans les dossiers de divorce, dans les familles avec enfants, il existe ce que l'on appelle la saisine permanente. Un nom un peu barbare qui signifie juste que le dossier peut être rouvert à tout moment, à la demande des familles, parce que le contexte a changé. Certaines familles abusent, estime la juge Valérie Moreau.
Le nombre de dossiers qui reviennent rapidement après un premier jugement est en augmentation. Et parfois pour des broutilles. Hein. On prévoit un droit d'hébergement au profit d'un des parents jusqu'au vendredi 18h. Eh bien, on a un parent qui revient parce qu'il veut que ce soit le vendredi à 17h. Ils en sont parfois à un tel niveau de conflit qu'ils n'arrivent même plus à se mettre autour de la table pour discuter simplement du changement d'une heure. Mais qu'est-ce que c'est qu'une heure ? Je le reconnais volontiers, parfois je les pousse. Quelque part, je les contrains un peu en disant non. Maintenant, je voudrais que vous appreniez à discuter et allez donc à la permanence médiation ou à la chambre des règlements amiables, puisqu'on a cet outil-là aussi. Pas toujours facile, hein, mais c'est vraiment dans ce sens-là que je voudrais que les choses évoluent.
À Mons, Madame Médiation s'appelle Annette Bridoux, avocate, responsable des permanences médiation, formatrice et démarcheuse à l'occasion dans la salle des pas perdus.
Monsieur, madame, excusez-moi de vous interrompre. Vous venez du tribunal de la famille ? Est-ce que vous connaissez la médiation qui permet justement de reformer une bonne équipe de parents et de trouver les meilleures solutions pour ses enfants ?
C'est vraiment pas le cas. Donc.
C'est pas possible. Ah ben oui, justement, c'est quand ce n'est pas le cas c'est important.
C'est
et ça se passe où ?
Alors, voilà, on n'a qu'à ouvrir cette porte et nous avons la permanence de médiation. Dans la salle de permanence, on a une affiche que je montre souvent quand les gens viennent en permanence. Ce sont deux chiens, un chien mâle et un chien femelle, qui sont chacun au-dessus d'une cime de montagne et qui sont en train de s'aboyer l'un sur l'autre. Et entre les deux cimes, il y a une planche. Et l'enfant est assis sur cette planche, devant le vide. Et donc les parents, ils continuent à s'aboyer l'un sur l'autre et ne se rendent pas compte que leur enfant est en danger.
Avez-vous une idée du nombre de dossiers résolus ou des accords qu'on peut trouver dans le cadre de ces séances de médiation?
On a à peu près 80% de réussite. Un couple sur cinq ne trouve pas d'accord, mais quatre couples sur cinq en trouvent.
On est plus que trois, ça diminue. Voilà, dites-moi.
Monsieur qui a lancé une citation en divorce. Les parties sont séparées depuis le mois de septembre. Elles ont déjà un domicile séparé.
Je demande une suspension d'un droit d'hébergement.
Oui.
Si madame s'engage à ne pas tenter de reprendre les enfants d'ici à ce complète dans un délai raisonnable.
Elle n'a pas repris les enfants.
La petite a pleuré au milieu de la cour de récréation devant ses conditions.
Alors, c'est pas ce qui s'est dit, je pense, tout à fait contesté.
Je pense quand même,
les enfants
étant les confrères,
sont terrorisés par le père.
Bien sûr,
c'est madame qui l'a subi.
On est d'accord, mais il faut apaiser la situation. Alors, moi, peu importe qui a fait quoi.
Je crois que j'essaie de m'arranger avec mon travail et je travaille à temps plein.
Il y a un enfant commun qui est né.
Je vous demanderai alors. Pour ces quatre éléments-là, de pouvoir reporter le dossier.
Vous avez maintenant entendu les cinq reportages des radios francophones publiques. Vous pouvez les réécouter dans leur version originale, généralement plus longue, sur le site de France Inter, franceinter.fr. Les membres du jury, 20 auditeurs par radio, vont se prononcer dans la journée et le lauréat du Grand Prix sera connu ce soir à 19h. Cette émission, le prix du journalisme des médias francophones publics, a été réalisée par Anne Lioreau, à la technique il y avait Alain Joubert. À la semaine prochaine, avec le retour d'Interception, votre magazine de reportage.